Chapitre 25. Dimanche 13 décembre, jour de la Sainte Lucie, le matin. Simone se réveille à 5 heures du matin. Kenneth a dû la porter dans son lit et la coucher. Elle se précipite dans la chambre de Benjamin, une lueur d'espoir au cœur, mais la sensation est balayée dès qu'elle franchit le seuil. La chambre est déserte. Elle ne pleure pas, mais se dit que le goût des larmes et de l'angoisse a tout envahi, comme une goutte de lait venue troubler l'eau claire. Elle tâche de maîtriser ses idées noires. Elle n'ose pas penser à Benjamin, pas vraiment. Elle n'ose pas laisser entrer la peur. La lumière est allumée dans la cuisine. Kenneth a recouvert la table de bouts de papier. La radio de la police est sur l'évier. L'appareil émet un bourdonnement sourd. Il reste immobile, regarde dans le vide un court instant, puis se caresse plusieurs fois le menton.
« C'est bien que tu aies pu dormir un peu, » dit-il.
Elle secoue la tête.
« Sixon ?»«
Oui, »
marmonne-t-elle en avançant jusqu'au robinet. Elle remplit ses mains d'eau froide et se rince le visage. Pendant qu'elle s'essuie avec le torchon, elle voit son reflet dans la vitre. Il fait encore nuit dehors, mais l'aube sera bientôt là avec son filet d'argent, le froid de l'hiver et l'obscurité de décembre. Kenneth écrit sur un bout de papier, en déplace un autre, puis note quelque chose dans un cahier à spirale. Elle s'installe sur la chaise en face de son père et s'efforce de comprendre où Joseph a pu emmener Benjamin, comment il a pu s'introduire dans leur appartement et pourquoi il a enlevé Benjamin et pas quelqu'un d'autre.
« Le fils de la main droite, » chuchote-t-elle.
« Qu'est-ce que tu as dit ?»«
Non, rien. »
Elle était en train de penser que le fils de la main droite et la signification hébraïque de Benjamin. Rachel, dans l'Ancien Testament, était la femme de Jacob. Celui-ci œuvra pendant 14 ans pour pouvoir l'épouser. Rachel eut deux fils, Joseph, celui qui interprétait les rêves du Pharaon, et Benjamin, le fils de la main droite. Simone s'efforce de retenir ses larmes. Son visage se contracte. Sans un mot, Kenneth se penche vers elle et serre ses épaules.
« On va le retrouver. » dit-il.
Elle hoche la tête.
« J'ai pu récupérer ce dossier juste avant que tu te réveilles, »
dit-il en tapotant la chemise sur la table. « C'est quoi ce document ?»«
Tu sais, cette maison à Tumba, où Joseph Heck. C'est le rapport d'enquête sur les lieux du crime. »«
Je croyais que tu étais à la retraite. »
Il sourit et lui fait passer la chemise. Elle l'ouvre et lit l'analyse systématique des empreintes digitales. Empreintes de mains, traces des corps traînés, cheveux, restes de peau retrouvés sous les ongles, éraflures sur la lame du couteau, moelle épinière sur une paire de pantoufles, sang sur la télévision, sur la lampe en papier de riz, la carpette, les rideaux. Des photos glissent d'une pochette en plastique. Simone s'efforce de ne pas regarder, mais son cerveau a déjà eu le temps d'enregistrer l'atrocité de la scène. Des objets ordinaires, des étagères, un meublifi, recouvert de sang noir. Sur le sol, des corps mutilés et des membres. Elle se lève, va jusqu'à l'évier et tente de vomir.
« Excuse-moi, » dit Kenneth. « Je n'ai pas pensé à... Parfois j'oublie qu'on n'est pas tous de la police. »
Elle ferme les yeux. Elle pense au visage terrifié de Benjamin et à une pièce obscure dont le sol est imbibé de sang froid. Elle se penche en avant et vomit. Des filets de bave et de bile recouvrent tasses et cuillères. En se rinçant la bouche, elle entend l'écho de son pouls tambouriner dans ses oreilles. Elle craint d'être sur le point de devenir complètement hystérique. Elle se raccroche à l'évier et respire régulièrement. Elle se ressaisit et regarde Kenneth.
« Ça va, » dit-elle d'une voix faible. « C'est juste que je n'arrive pas à relier tout ça à Benjamin. »
Kenneth va chercher une couverture dans laquelle il l'enveloppe, puis il l'installe délicatement sur la chaise.
Si Joseph Heck a enlevé Benjamin, c'est qu'il doit vouloir quelque chose, parce qu'il n'a jamais procédé comme ça auparavant.
Je ne suis pas sûr d'avoir la force, chuchote-t-elle.
Je veux juste te dire qu'à mon avis, Joseph Heck cherchait Eric, mais comme il ne l'a pas trouvé, il a pris Benjamin pour servir de monnaie d'échange.
Alors il est forcément en vie, non?
Bien sûr qu'il est en vie. Il faut juste comprendre où il l'a caché, où se trouve Benjamin.
N'importe où. Ça peut être n'importe où.
Au contraire, dit Kenneth. Elle le regarde.
Je suis presque certain qu'ils sont dans sa maison ou dans le petit chalet d'été.
Mais c'est ça, sa maison, dit-elle en haussant la voix et en tapant du doigt sur la pochette de photos.
Kenneth balaie de la main les miettes de la table.
Du trou, dit-il.
Quoi ?
Demande Simone.
Du trou. Tu te souviens de l'affaire du trou ?
Je ne sais pas.
Kenneth expose, de son ton détaché caractéristique, l'histoire du pédophile Marc Dutroux, qui avait kidnappé et torturé 6 filles en Belgique. Julie Lejeune et Mélissa Rousseau étaient mortes de faim pendant que Dutroux purgeait une courte peine de prison pour vol de voiture. Effie Lambrex et Anne Marshall avaient été enterrées vivantes dans le jardin.
Dutroux avait une maison à Charleroi, poursuit-il. Dans la cave, il avait construit une cache avec une porte dérobée de 200 kilos. Il était impossible de détecter la pièce en frappant pour trouver un espace creux. Le seul moyen de trouver la cache était de mesurer la maison. Les mesures extérieures ne correspondaient pas aux mesures intérieures. Sabine Dardenne et Laetitia Delay y ont été retrouvées en vie.
Simone essaie de se mettre debout. Elle sent son cœur cogner bizarrement dans la poitrine. Elle se dit que certains hommes sont dominés par une pulsion de séquestration. La terreur de leurs victimes sous eux, dans le noir, savoir qu'elles crient à l'aide derrière des murs sourds, les apaise.
« Benjamin a besoin de ses médicaments, » chuchote-t-elle.
Simone voit son père aller au téléphone. Il compose un numéro, attend un moment, puis dit rapidement
« Charlie, écoute, il y a une chose que j'ai besoin de savoir au sujet de Joseph Heck. Non, il s'agit de sa maison, la maison dans le lotissement. »
Il y a un moment de silence, puis Simone entend quelqu'un parler d'une voix grave et posée.
« Oui, » dit Kenneth. « Je sais que vous l'avez inspecté. J'ai déjà consulté le rapport d'enquête sur les lieux du crime. »
L'autre personne continue de parler. Simone ferme les yeux. Le crépitement de la radio de la police se fond dans le bourdonnement sourd de la voix au téléphone.
« Mais vous n'avez pas mesuré la maison ?» entend-elle son père demander. « Non, évidemment, mais... »
Elle ouvre les yeux et sent une soudaine poussée d'adrénaline chasser son envie de dormir.
Oui, ce serait bien. Tu peux me faire porter les plans et tous les documents liés au permis de construire qui... Oui, à la même adresse, oui. Merci beaucoup.
Il raccroche et sonde l'obscurité par la fenêtre.
Est-ce que Benjamin pourrait se trouver dans la maison ?
Demande-t-elle.
Ce serait possible ? Papa ?
C'est ce que nous allons vérifier.
Mais viens alors,
s'impatiente-t-elle.
Charlie nous fait envoyer les plans.
Des plans ? On s'en fout des plans, papa. Qu'est-ce que t'attends ? On y va, je peux arracher chaque petit...
Ce n'est pas une bonne idée. Tu vois, il y a urgence, mais je ne pense pas que nous gagnerons du temps en nous rendant à la maison pour commencer à démolir un mur après l'autre.
Mais il faut faire quelque chose, papa.
La maison a grouillé de policiers ces derniers jours. S'il y avait eu quelque chose de flagrant, ils l'auraient trouvé, même s'ils n'y cherchaient pas Benjamin.
Mais
il faut que je regarde les plans pour voir où il aurait été possible de construire une pièce dérobée, pour relever des mesures que je pourrais comparer à celles prises sur place.
Mais s'il n'y a pas de pièce dérobée, où peut-il se trouver ?
La famille partageait un chalet d'été près de Bolness avec les frères du père. J'ai un ami sur place qui m'a promis de s'y rendre. Il connaît bien le coin. Le chalet se trouve dans la partie la plus ancienne d'un lotissement de maisons de vacances.
Kenneth regarde l'heure et compose un numéro.
« Salut Svante, c'est Kenneth à l'appareil. Je voulais savoir... »«
Je suis sur place, »
interrompt l'ami.
« Où ?»«
Dans la maison, »
dit Svante. « Tu étais simplement censé regarder. »«
Ce sont les nouveaux propriétaires qui m'ont fait entrer, les Siedine qui ont... »
Quelqu'un parle derrière.
« Les Siedine, »
corrige-t-il.
« Ils sont propriétaires de la maison depuis plus d'un an. » »«
Merci de ton aide. »
Kenneth raccroche. Une ride profonde se creuse sur son front.
Et le petit chalet ?
Demande Simone.
Là où logeait sa sœur ?
Nous avons envoyé des hommes sur place plusieurs fois, mais cela ne nous empêche pas d'aller y faire un tour.
Ils cessent de parler. Leurs regards se font pensifs, introvertis. Le volet de la fente pour le courrier cliquette. Le journal du matin apparaît et tombe dans le vestibule avec un bruit sourd. Aucun des deux ne bouge. Ils entendent encore quelques clapets de boîte à lettres à l'étage du dessous. puis le bruit de la porte de l'immeuble. Soudain, Kenneth monte le volume de la radio de police. Un appel sortant. Quelqu'un répond, demande des informations. Un bref échange. Simone saisit quelque chose au sujet d'une femme qui a entendu des cris dans l'appartement voisin. Une voiture est envoyée sur place. Dans le fond, quelqu'un rit et s'embarque dans une longue explication sur le pourquoi du comment son petit frère, désormais adulte, habite encore à la maison et se fait préparer ses tartines chaque matin. Kenneth rebaisse le volume. « Je vais refaire du café », dit Simone. Kenneth sort un plan du Grand Stockholm de son sac en tissu kaki. Il enlève les bougeoirs de la table et les pose sur le rebord de la fenêtre avant de le déplier. Derrière lui, Simone observe le réseau embrouillé de rues, trains et lignes de bus qui s'entrecroisent dans des tons de rouge, de bleu, de vert et de jaune. Des forêts et des banlieues géométriques. Le doigt de Kenneth suit une route jaune au sud de Stockholm qui passe par Elvsie, Huddinge, Tullinge avant de descendre jusqu'à Tumba. Ils étudient ensemble la page qui couvre Tumba et Salem. C'est un plan aux couleurs passées, montrant une vieille agglomération ferroviaire dont le nouveau centre s'est développé autour de la gare des trains de banlieue. Il voit les constructions lancées après-guerre, les tours, les commerces, une église, une banque et un magasin d'alcool d'État. Autour de ce noyau se déploie un réseau en étoiles de lotissements et de zones résidentielles. Des champs de blé jaune s'étendent au nord de la commune, puis, quelques kilomètres plus loin, des forêts et des lacs. Kenneth suit les noms des rues et dessine un cercle parmi les alignements de rectangles.
« Qu'est-ce qu'il fout, ce coursier ?» grommelle-t-il.
Simone remplit deux tasses de café et sort le paquet de sucre en morceaux pour son père. « Comment est-ce qu'il a pu entrer ?» demande Simone.
« Josef Eck. Eh bien, soit il avait une clé, soit quelqu'un lui a ouvert la porte.
Ce n'est pas possible de crocheter.
Pas ce genre de serrure, c'est trop difficile. Ce serait bien plus simple de forcer la porte.
On regarde l'ordinateur de Benjamin ?
On aurait déjà dû le faire. J'y ai pensé tout à l'heure et puis ça m'est sorti de la tête. Je dois commencer à fatiguer. »
Simone remarque qu'il a l'air vieux. Elle n'a jamais pensé à son âge auparavant. Il la regarde, la bouche navrée. « Essaie de dormir un peu pendant que je vérifie l'ordinateur, » dit-elle.
« Pas question !»
Quand Simone et Kenneth pénètrent dans la chambre de Benjamin, c'est comme si elle n'avait jamais été habitée. Brusquement, Benjamin paraît horriblement loin. Simone sent une angoisse terrible la tenailler au ventre. Elle déglutit encore et encore. Dans la cuisine, la radio de police bourdonne, siffle et crépite. Ici, dans l'obscurité, la mort attend comme une absence noire, un vide dont elle ne se remettra jamais. Elle allume l'ordinateur, l'écran scintille, les ventilateurs se mettent à tourner et le disque dur donne ses ordres. Quand le système d'exploitation fait retentir l'air de bienvenue, c'est comme si une partie de Benjamin était revenue. Ils approchent deux chaises et s'installent. Elle clique sur l'icône du visage de Benjamin pour se connecter.
« Procédons lentement et méthodiquement, ma chérie, » dit Kenneth. « Commençons par les emails et... »
Il est arrêté par l'ordinateur qui exige un mot de passe.
« Et c'est son nom, » dit Kenneth.
Elle tape le nom de Benjamin, mais l'accès est refusé. Elle tape « Aïda », retourne les noms, les combine entre eux, tape « Bark », « Benjamin Bark », rougit quand elle essaie « Simone » et « Sixan », tente « Eric », les noms des artistes que Benjamin écoute, Sexsmith, Anne Brune, Rory Gallagher, Lennon, Towns Van Zandt, Bob Dylan.
« Ça ne marche pas, » dit Kenneth. « Il va falloir faire venir quelqu'un qui nous l'ouvre. »
Elle essaie quelques titres de films, des noms de réalisateurs, dont parle souvent Benjamin, mais abandonne au bout d'un moment. C'est impossible.
« On aurait déjà dû recevoir les plans, » dit Kenneth. Je vais appeler Charlie pour savoir ce qui se passe.
Il sursaute quand on frappe à la porte. Simone reste dans le couloir et, le cœur battant, regarde Kenneth aller dans le vestibule et tourner la poignée. Le matin de décembre est pâle comme le sable. Il fait quelques degrés au-dessus de zéro quand Kenneth et Simone arrivent dans le quartier où est né et a grandi Josef Eck et où, à l'âge de 15 ans,
il a massacré presque toute sa famille. La maison ressemble à toutes les autres maisons de la rue, soignée et banale. Sans le ruban de signalisation bleu et blanc, personne ne pourrait deviner que quelques jours plus tôt, elle a été le théâtre des deux meurtres les plus effroyables et cruels de l'histoire du pays. Un vélo avec des roulettes est appuyé contre un bac à sable devant la maison. Le ruban de signalisation détaché d'un côté a volé au vent et s'est accroché sur la boîte aux lettres voisine. Kenneth passe lentement devant la maison, sans s'arrêter. Simone plisse les yeux en direction des fenêtres. L'endroit semble à l'abandon. Toute la rangée de maisons paraît plongée dans l'obscurité. Il continue jusqu'à la zone de manœuvre, font demi-tour, et se rapproche de nouveau de la scène du crime quand le téléphone de Simone se met à sonner. « Allô ?» répond-elle rapidement. Elle écoute un instant. « Il y a du nouveau ?» demande-t-elle. Kenneth s'arrête, laisse le moteur tourner, puis il coupe le contact, tire le frein à main et sort de la voiture. Il prend dans le coffre une pince Monseigneur, un mètre à ruban et une torche. Avant de refermer le coffre, il entend Simone dire qu'elle doit y aller. « À ton avis !» hurle Simone dans le téléphone. Kenneth l'entend à travers les vitres de la voiture et voit son visage bouleversé quand elle quitte le siège passager, les plans à la main. Ils avancent en silence vers la clôture blanche et sa petite porte. Kenneth extirpe la clé d'une enveloppe, continue jusqu'à la porte et ouvre. Avant d'entrer, il se retourne vers Simone, hoche brièvement la tête et voit son visage déterminé. Dès qu'il pénètre dans le vestibule, une odeur nauséabonde de sang rance les submerge. L'espace d'un instant, Simone sent la panique monter dans sa poitrine. C'est une puanteur putride, sucrée, qui rappelle les excréments. Elle jette un regard sur Kenneth. Il n'a pas l'air effrayé, juste concentré. Ses mouvements sont soigneux et réfléchis. Il dépasse la salle de séjour et, du coin de l'œil, Simone devine le mur ensanglanté, le chaos, la désolation, la terreur qui monte du sol et le sang au-dessus du poêle en stéatite. Ils entendent un bruit étrange, comme un grincement, quelque part dans la maison. Kenneth s'arrête net, sort calmement son ancienne arme de service, enlève le cran de sécurité et vérifie qu'elle est chargée. Ils entendent un nouveau bruit, un balancement lourd. Ça ne ressemble pas à des pas, mais plutôt à quelqu'un qui rampe lentement.